notamment en faisant, en se déguisant son père pour se prendre en photo, ou en se déguisant sa mère pour se prendre en photo. Il était communiste, il a été membre du Parti communiste, ce qu'on ne sait pas souvent.
Ce qu'on sait encore moins, mais c'est pas sûr. Est-ce qu'il aurait été séminariste? Il aurait eu des... Ça vient de la religion, tout ça, oui.
Oui, oui, d'où le jeu avec la messe, par exemple, avec le sacré.
Donc c'était l'époque des performances, oui. où des gens ont mis certains, parce qu'il y a eu un snobisme qui a été fait là-dessus, ont mis leur corps en péril.
Oui, Journiac est allé très loin, hein. Il s'est fait tatouer, Mais il a aussi une œuvre plastique, enfin voilà. Il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est... le contrat qu'il faisait signer à des gens, comme quoi les gens lui laissaient leur squelette après leur mort pour qu'ils deviennent plastifiés ou dorés à la feuille. Avec Jean Rista, dans les Lettres françaises, nous avions fait un petit dossier sur Michel Journiac et on avait mis en une, à l'époque les Lettres françaises étaient insérées dans l'Humanité, maintenant c'est un journal indépendant, une œuvre de Journiac où sur un fond de drapeau tricolore, on voyait Marianne avec une énorme bite en érection.
C'était en quelle année, ça ?
Je sais plus. J'ai pas le sens des dates.
Non, mais je veux dire qu'avec toutes les... La censure, il va y avoir dans l'air, la censure dans l'air, hein, ce qui s'est passé avec les gueules de Mahomet, alors qu'on n'avait jamais gueulé contre le Christ en état d'érection, la une de Charlie Hebdo, tout ça est vraiment en balance, quoi. Hein. Oui, mais on a commencé en disant que c'était un acte politique, un acte militant. Tu as bien séparé homosexuel, écrivain, etc. Ça se fait face dans la revue, là. Je crois que dans la revue, pardon, dans l'anthologie. Je crois que Monterland est en face d'Aragon.
Oui.
Et la démarche politique de Monterland n'est pas très sympathique.
Ah, c'est une crapule.
Oui, oui, voilà, voilà, voilà.
Oui, non, alors, non, mais je n'ai pas mis que des auteurs que j'aimais.
D'accord.
Hein. Mais Monterland et Aragon étaient amis. Ils se sont connus au lycée. On dit qu'ils auraient joué ensemble à des jeux.
D'accord.
Voilà. Et ils se sont fâchés parce que Aragon lui a demandé de rentrer dans la résistance, ce qui paraissait logique. Et comme Monterland a toujours été un lâche, il a refusé.
Oui, mais il y a quand même des...
Et il a... Bon, c'est pas Drieux ou Brasillach, mais il y a des choses très, très douteuses dans ses livres.
C'est ce que j'allais dire.
Voilà, un rapport de fascination pour l'Allemagne.
Et pour la Croix gammée, il y a tout un texte, qui s'appelle le solstice de je sais pas quoi.
Solstice de juin.
De juin. Il y a une apologie de la Croix gammée, hein.
Oui.
La Croix gammée. On va revenir vite fait sur Genet. La démarche de Genet politiquement est très sympathique.
Ah oui, admirable.
Vas-y, tu connais ça mieux que moi. Il commence d'un mauvais côté, hein. Il a une sympathie pour les uniformes, il a une sympathie pour tout ça, hein.
Oui, mais que ce soit... Il y a un livre très intéressant de lui, c'est L'ennemi déclaré.
Je connais pas.
Oui, c'est un recueil de textes politiques. Et puis, il y a le magnifique Captif amoureux.
Captif amoureux.
Sur la Palestine.
Sur Sabra et Shatila.
Voilà.
Oui,
et son engagement auprès des Black Panthers aussi. Enfin, il ne pouvait pas obtenir de visa pour aller aux États-Unis. Voleur, homosexuel, communiste ou crypto-communiste, donc il ne pouvait pas rentrer. Il est rentré clandestinement pour soutenir les Black Panthers.
Il y a un très beau livre qui est paru une quinzaine d'années, c'est ce qui est des écrivains. Il y a Beckett, il y a Genet, il y a des gens comme ça, qui vont à Berlin lors de la montée du fascisme. Imagine. Et voir ce qu'ils ont vu ou pas vu. Il y en a qui n'ont absolument rien vu, d'autres à qui ça plaisait bien, etc. Et notre Genet, il y va, il est décidé à voler. Si c'est un voleur, c'est un voleur. Et il s'aperçoit qu'à Berlin, quand il arrive, tout le monde vole. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se prostitue. c'est vraiment, c'est extraordinaire, quand même.
Oui, oui.
Mais c'est, moi, j'arrive à comprendre que des gens soient gênés de voir, que, dans une anthologie, qu'Aragon puisse côtoyer Monterland. Il y a une vingtaine d'années, il y avait eu un problème philosophique qui était intéressant. C'était, il y avait une grande manifestation, même il y a plus longtemps, du phare, une manifestation homosexuelle, une chose comme ça. Et il y avait une organisation de CRS et de flics homosexuels qui avait voulu se joindre à la manifestation. Et ça avait fait tout un pataquès. Et je veux dire, mais est-ce que cette sexualité peut faire oublier des choses comme ça?
Bah, c'est-à-dire que moi, mon livre ne peut pas être exhaustif. Hein. J'ai découvert depuis qu'il y a des auteurs qui manquent. Mais j'ai tenu à mettre Monterland parce que lui qui était lâche, qui s'est tellement caché de sa vraie sexualité, qui en plus était pédophile, c'est assez abject. Mais je pense qu'il fallait qu'il y soit pour l'histoire. Après, le poème que je cite n'est pas inoubliable. Hein.
Alors voilà, dans cette anthologie, il y a des choses remarquables. Il y a des choses qui sont beaucoup moins, quoi.
Oui, je pense à Delsoir de Fersen.
Oui, c'est pas
bon.
Oui.
C'est même assez kitsch. Mais comme il est l'auteur de la première revue homosexuelle Academos, il fallait qu'il soit dans le livre.
On va se faire plaisir.
Oui.
Avant de côté de la musique, parce qu'il y en a un, effectivement, c'est sur le bon ou le mauvais, sur le bon goût ou le mauvais goût, on va laisser les auditeurs, voilà, c'est Laurent Taillade.
Oui, magnifique.
Magnifique, Laurent Taillade.
Oui, oui.
Alors, je me suis écorché pour l'amour d'une bite. Je me suis écorché contre un garçon boucher qui avait un gros morceau et moi j'étais puceau. Sa pine sentait bon, une odeur de fromage. Sa pine sentait bon, on eût dit un bonbon. C'est pourquoi je bandais comme plusieurs baudets. Au premier coup portant, il me l'a foutu dans le mille. Au premier coup portant, c'en était épatant. Puis il a tant poussé que je suis défoncé. Depuis cet accident, je perds tous mes légumes. Depuis cet accident, on me trouve emmerdant et j'emploie mon pognon à me soigner de troufignon. Ainsi la graisse d'ours, l'iode et la vaseline, ainsi la graisse d'ours couronne mes amours. Car pour en vivre en beauté, je me vis en papa huté, jeune homme au beau cul, qu'aimer les chibres énormes, jeune homme au beau cul, soyez-en convaincus, rien ne fait tant mal qu'un membre de cheval.
Oui, c'est très joyeux, c'est très drôle.
Et puis quel personnage Taillade aussi.
Oui,
hein,
oui.
Voilà, qui a quand même soutenu les attentats anarchistes, qui s'est retrouvé borgne. Sa fameuse sorte, il est au restaurant Foyot, je crois, il y a une bombe qui éclate, il est amputé. Il n'y a pas d'ambulancier, et il dit qu'on aille me chercher l'éléphant du jardin des plantes.
Voilà. Oui, grand personnage. Oui, je connaissais pas bien quand j'ai commencé à travailler pour cette anthologie, et ça a été une découverte réjouissante.
On va écouter un peu de Genet, et puis on va poursuivre le voyage.
Avec grand plaisir.
Tristesse dans ma bouche, amertume gonflant mon pauvre cœur, mes amours parfumés. Adieu vont s'en aller. Adieu, couilles aimées. Oh, sur ma voix coupée, adieu, chibre insolent. Gamin, ne chantez pas. Posez votre air d'apache. Soyez la jeune fille au pur cours adieu. Ou si tu n'as de peur, l'enfant mélodieux mort en moi, bien avant que me tranche la hache. Enfant d'honneur si beau, couronné de lilas, penche-toi sur mon lit. Laisse ma queue qui monte frapper ta joue dorée. Écoute, il te raconte ton amant l'assassin, sa geste en mille éclats. Il chante qu'il avait ton corps et ton visage, ton cœur que n'ouvriront jamais les éperons d'un cavalier massif. Avoir tes genoux ronds, ton cou frais, ta main douce. Ô môme, avoir ton âge.
Ah, oh, Monique, mon cœur bat quand je vous vois en cabine, Monique, au 01 43 71 89 40. Et ben toujours avec Franck Delorieux, L'amour entre hommes dans la poésie française, aux éditions Segers. Il n'y a pas Oscar Wilde, je tiens à vous le dire, monsieur Delorieux. Hein. Il n'y a pas Oscar Wilde, je tiens à vous le dire.
Ben oui, mais il n'écrivait pas en français.
Alors. Oui, c'est bien le problème, c'est moi. Je l'ai tellement, il est tellement international, son humour est, est tellement à droite à, comme ça, en, à Paris, c'est pas parisien, il y a été parisien, et sa relation avec Gide, sa relation avec tout ça, quoi. Bon, alors, il s'est trouvé, j'ai raconté ça à Alain Ruscio lorsqu'il est venu ici, pour son livre aux éditions Manifeste, Louis Arago et le colonialisme, c'est ça ?
Voilà.
D'accord. Je lui disais, est-ce que tu as rencontré Arago ? Il me dit non. Et je lui dis, moi, je l'ai rencontré une fois. Et je lui raconte. Je lui raconte, j'étais avec mon ami Jimmy Gladiator, c'était au théâtre Sarah Bernard. Il descend, on voit un type arriver avec des cheveux pas possibles, blancs. Il avait évité toutes les couleurs, des joues rouges, un costume, des pompes bicolores. Il était entouré par des gitons. Il avait un giton devant, un giton derrière, un giton sur le côté, etc. Et mon ami Gladiator, qui était très visuel, lui dit, dites donc, Louis Arago, j'ai une question à vous poser. Alors, les gitons aussi ont commencé à faire un barrage, comme ça. Et Louis Arago, très calme, dit, qu'est-ce que vous voulez ? Et Gladiator, il a posé une question. Il a dit, est-ce que c'est vrai qu'en telle année, vous avez dit ça à un tel, etc. Et donc, c'était longtemps dans le temps. Hein. Et Arago, très calme. Il lui répond, non, c'est faux. Oui, j'ai effectivement eu cette discussion. C'était pas comme ça. Ça s'est passé tel jour, à telle heure et par téléphone. Mémoire superbe.
Oui.
Voilà. Donc, c'est Louis Arago qu'on a vu dans la... Mort d'amour pour Elsa. Mort d'amour pour Elsa, là. Il a été très rapide à se reconvertir avec des jeunes hommes.
Alors, c'était pas, il s'est pas reconverti. Il a toujours eu des relations avec des hommes. Hein. On sait qu'il a eu une liaison avec Drieu La Rochelle avant que Drieu...
C'est officiel, ça ?
Oui, avant que Drieu devienne évidemment fasciste, pro-nazi. Donc là, c'était plus possible. Elsa, dans quel roman ? Le Cheval Blanc, je crois, parle d'une liaison qu'Arago a eue avec un homme pendant qu'il était en couple avec Elsa. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un très beau vers d'Arago, « mon Dieu, cela ne s'éteint pas ». Après la mort d'Elsa, il avait toujours besoin d'aimer. Et il a considéré qu'après Elsa, il ne pourrait plus jamais aimer une autre femme. Donc, il s'est affiché avec des hommes sans le moindre gêne. Ça fait un peu... Dans le Parti communiste, voilà, ça fait du bruit.
Ça, voilà, ça, faut le dire. C'est quand même un parti, au départ, qui est sérieusement homophobe.
Oui, 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 bien sûr. Ben, c'est le fameux mot, quand des militants du Front homosexuel d'Action révolutionnaire, le phare, viennent perturber un meeting de Duclos. Duclos leur répond, nous sommes un parti sain ici, si vous êtes homosexuel, allez vous faire soigner.
Déjà.
Bon, heureusement, cela a énormément évolué. La parution en 1977 de l'Aude pour hâter l'avenue du printemps de Jean Rista, dédié à mes camarades du PCF, où il y a ce vers, camarade, ne met pas l'amour en prison, a beaucoup fait bouger les choses.
La femme de Thorez, Jeannette
Vermersch, oui.
Qui était contre l'avortement.
Qui était contre l'avortement, le fils qu'ils ont eu, un de leurs fils, Pierre, qui était homosexuel, s'est suicidé.
C'est ça.
Oui. Jeannette Vermersch. Il y a une émission de télé qui avait duré 6 heures, dit et non dit d'Aragon, et Aragon démolit Jeannette Vermersch. Non, c'était pas une femme. Elle était sur la question des mœurs complètement réactionnaire.
J'ai fait une émission, et encore là, c'est encore exercice d'amnésie, avec un journaliste de l'Humanité qui a écrit un livre assez court sur Marguerite Duras. Pas sur Marguerite Duras, mais qu'est-ce qui s'est passé pour la cellule de la rue Saint-Benoît après la guerre. Mmh. Duras allait picoler. Elle picolait, elle allait dans les boîtes de nuit, elle allait, etc. Et elle est passée en procès de la part de ses camarades du Parti communiste. Elle a été exclue. Donc le PC, et c'est fini. J'espère que c'est fini. A travaillé une moralité pendant très longtemps.
Oui, oui. Mais maintenant, ça a bien changé. Au moment du Pax, le parti a proposé quelque chose de beaucoup plus avancé que ce qui a été voté. Le parti a milité très activement pour le mariage pour tous. Soutient le droit des transsexuels. Enfin, ce parti qui vient de loin, comme disait Aragon, heureusement maintenant est très libre. Il a même eu au siège du Parti communiste une exposition de Tom de Pékin.
On pourrait dire qu'il était on pourrait dire qu'il était homophobe, ce parti, mais il était aussi quelque part antisémite.
Non. Jamais.
Ça, c'était responsabilité. Non, jamais.
Jamais.
Parce que moi, je viens de ce cœur. Oui.
Je ne dis pas qu'il pouvait y avoir des membres du Parti communiste qui étaient personnellement antisémites, mais le parti en lui-même n'a jamais été antisémite.
D'accord. Daniel Guérin, tu vois à peu près qui est Daniel Guérin ?
Oui, bien sûr.
D'accord. C'est un militant d'extrême gauche, homosexuel, qui va avoir des positions libertaires.
Oui.
Qui va écrire ni Dieu ni un livre, c'est ni Dieu ni maître, je crois, et qui n'a pas été tendre du tout par Aragon. Tu te rappelles ce qu'il a dit sur Aragon ?
Oui.
On s'étonnera de lire les propos qu'il tint un an après sa mort sur Aragon, arrimé à l'hétérosexualité comme au stalinisme par Elsa, et qui devait se protéger d'un autre malfaisant sectarisme, celui du Parti communiste. Voilà. C'est-à-dire qu'il nous présente Elsa comme un rempart, quoi.
Ce qu'elle n'était pas. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que Elsa Triolet n'a jamais été membre du Parti communiste. Absolument jamais. Et que le premier article en France sur Solzhenitsyn, c'est un article d'Elsa Triolet. Donc.
Ça t'inspire l'enquête sur la sexualité des surréalismes ? Des surréalistes, pardon.
Alors, c'est très intéressant. Il n'y a que deux intervenants qui défendent le droit des homosexuels, c'est Aragon et Queneau.
Et Crevel n'y participe pas ?
Je ne crois pas.
D'accord. Pourtant, Crevel est un membre incontournable de l'histoire du surréalisme.
Bien sûr. Et on voit toute l'homophobie dans les rêves bretons qui était...
C'est intenable. Ce qu'il raconte, c'est intenable.
Oui. C'est sectaire, c'est violent.
C'est viscéral. Je pense que c'est viscéral.
Oui. Alors que quand on revoit la première rencontre entre Breton et Aragon, c'est une scène de coup de foudre.
Oui. Il y a une histoire d'amour, histoire d'amour entre les deux.
Oui. Sûr. Mais dans les années 60, il y avait dans une galerie une exposition surréaliste dont s'occupait André Breton. Et devait exposer Brian Gysin. Et quand Breton a appris que Gysin était homo, il a fait retirer les œuvres. Ça en dit long, hein.
Années 60, c'est ?
Années 60, oui.
Et pourtant, il y a eu des homos dans le mouvement surréaliste.
Oui, Aragon, Crevel...
Crevel, surtout, incontournable...
magnifique écrivain.
Qui meurt à 34 ans, un tuberculeux, il traîne de sanatorium en sanatorium.
Oui, il suicide.
Il essayait d'arranger les choses entre les communistes et les surréalistes. Ah oui, c'était un destin extraordinaire.
Oui.
Et ça, c'est la grande contradiction. Je ne sais pas si Breton est revenu sur ses dires.
Non.
Ça, j'en sais fichtrement pas.
Pas à ma connaissance. Voilà.
Par contre, alors, tu as réussi dans cette anthologie, à nous glisser Jacques Prévert.
Oui.
Qu'est-ce qui vient foutre là-dedans, Jaco ?
Alors, l'histoire est amusante. Je me suis servi d'un site, où la référence est dans le livre, qui recensait des poèmes gays. Et je vois ce poème de Prévert sans aucune explication. Bon, mais moi, tel que je le lis, je ne vois pas en quoi c'est homosexuel, puisque le « je » n'est pas identifié. Donc c'est l'histoire de quelqu'un, c'est le matin, qui regarde une personne « il », en train de faire son café, de partir, et il le quitte, en fait. Et voilà, le jeu pleure. Et puis, en faisant des recherches, je suis tombé sur une lettre de Prévert à un curé, Il faudrait la lire parce qu'elle est extraordinaire.
Un peu longue à lire. Malheureusement, elle est un peu longue.
Juste un petit bout.
Oui, attends, vas-y. Raconte et je vais la retrouver.
Et en fait, le prêtre avait dans son bulletin paroissial publié le poème comme étant un poème hétérosexuel. Et Prévert écrit à ce curé...
Monsieur, j'aimerais savoir de quel droit divin ou autre vous vous êtes permis dans votre bulletin paroissial Le Messager de reproduire en changeant le titre afin de donner le change à un texte signé de moi et paru ailleurs depuis fort longtemps. En administrant ainsi typographiquement le sacrement du mariage à 2 acres d'encre de papier, et comment pourriez-vous le savoir ? Peut-être en même temps de présence réelle de chair et de sang, n'avez-vous pas agi avec une inconcevable légèreté ? Qui vous dit que vous n'avez pas imprudemment travesti 2 innocents et charmants homosexuels en victimes du devoir conjugal ? Si vous vouliez vous donner la peine de relire attentivement ce texte, vous vous trouveriez dans l'obligation de reconnaître que rien ne vous permet de rejeter cette hasardeuse hypothèse. Le temps passé, bien sûr, mais la soudaine importance des problèmes sexuels et matrimoniaux dans les tout récents débats à Rome des pères conciliaires me permet d'envisager que vous avez peut-être été inconsciemment guidé par le divin radar que les incroyants appellent encore chance ou hasard et que vous avez peut-être posé la première pierre théologiale d'une science nouvelle, l'homo partout, the genèse.
C'est magnifique.
Alors, jetant une lueur neuve et nécessaire sur le transcendant mystère de la descendance d'Adam et Ève, vos premiers parents. Ainsi, sans remonter à l'épiphénomène de la multiplication des pains, nous pourrions peut-être bientôt, grâce à cette science, avoir d'autres lueurs et même d'autres lumières sur d'autres mystères. Alors, la sainte utérinité, de même que l'immortelle contraception, nous apparaîtrait plus claire sans rien perdre toutefois de leur mystère. Je termine par quelques phrases de politesse que j'ai le tact comme le plaisir de garder secrète. Bien tourné, hein ?
Oui, c'est magnifique. Voilà. Oui, et le poème est très beau, il est très, très émouvant. Et j'étais content de mettre Prévert aussi dans cette anthologie. Ça fait partie des surprises, comme Mauriac.
Oui, mais bon, oui, mais Mauriac, c'est pas Monterland, hein.
Non, je
veux dire, c'est pas Monterland. Voilà.
Oui, oui, mais on s'attendait pas à des poèmes homo de la part de Mauriac, c'est ça que je voulais dire.
Mais alors, où je ne suis pas d'accord du tout, je trouve que je réitère, je suis tellement content que je réitère, c'est tirer le diable par la queue. Où vous avez trouvé là, dans ce poème de Prévert, je vais le faire rapidement, une notation homosexuelle. Déjeuner du matin, il a mis le café dans la tasse, il a mis le lait dans la tasse de café, il a mis le sucre dans le café au lait avec la petite cuillère, il a tourné, il a bu le café au lait, il a reposé la tasse sans me parler, il a allumé une cigarette, il a fait des ronds avec la fumée, il a mis les cendres dans le cendrier sans me parler, sans me regarder, il s'est levé, il a mis son chapeau sur la tête, il a mis son manteau de pluie parce qu'il pleuvait et il est parti sous la pluie sans une parole, sans me regarder, et moi j'ai pris ma tête dans ma main et j'ai pleuré. Qu'est-ce qu'il y a d'homosexuel dedans ?
Eh bien, c'est ce qu'en dit Prévert. Moi, je ne surinterprète pas les textes. Hein. Je ne vois pas des homosexuels partout. Oui. Mais puisque Prévert dit à ce comte curé que c'est sans doute un couple homo, voilà, j'ai l'imprimature de Prévert, si je puis dire.
D'accord. Mais on est d'accord qu'il n'y a rien.
Mais sinon, je ne l'aurais pas pris. D'accord. Si je n'étais pas tombé sur cette lettre de Prévert, je ne l'aurais pas pris.
D'accord. Très bien. On est absolument d'accord. Monique, ne rêvez pas comme ça loin de moi, merci.
Voler, voler, ton ciel éclaboussé de sang et faire un seul chef-d'œuvre avec les morts cueillis. Ça et là dans les prés, les morts éblouis. De préparer sa mort, son ciel adolescent. Les matins solennels, le rhum, la cigarette, les ombres du tabac, du bagne et des marins. Visite ma cellule où me roulaient mes trains. Le spectre d'un tueur à la lourde braguette.
Oui, oui, 20, il me restait 20 secondes quand même au 01 43 71 89 40. Et bien toujours avec Franck Delorieux, L'amour entre hommes dans la poésie française. Ça vient de sortir ?
Oui.
D'accord. Il est très bien foutu ce livre, hein ?
Alors, je dois remercier les éditions Segers et particulièrement Anne Dieuzart, la directrice artistique, et Guillaume Périlou, l'attaché de presse, qui m'ont fait un très bel ouvrage, illustré par Thomas Castro-Neves.
Tu connais ?
Je connaissais pas, non, que j'ai découvert, voilà, c'est Segers qui me l'a proposé. Ça m'a tout de suite plu, les illustrations sont très belles, avec un bleu clin magnifique, et je suis heureux de l'objet.
C'est très drôle, cette histoire de bleu clin. Mm. On sait que c'est du bleu clin. C'est vrai, c'est pas Oui, on sait que c'est du bleu clin, c'est rentré dans une expression.
Oui, bien sûr, oui. Mais c'est même déposé, je crois.
Ah, c'est déposé, pour ça j'ai fait. J'étais absolument pas au courant de que ce soit déposé. On fait un voyage dans le temps, c'est-à-dire qu'on part très loin, on part sur le petit Parnasse satirique.
Oui.
On arrive dans nos jours.
Le plus récent est un jeune auteur qui s'appelle Arthur Dreyfus, qui a beaucoup, beaucoup de talent. Je vous conseille à tous de lire son dernier livre, La Troisième Main, qui est un petit chef-d'œuvre, et de lire aussi Histoire de ma sexualité et Journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui. Il a une très belle plume, il a beaucoup, beaucoup de talent.
Est-ce que j'ai vu André Gide dedans ?
Non, il n'y a pas de poème.
Pourquoi ?
Au bout d'André Gide.
Les nourritures naturelles ne te retournent pas. Le poème d'amour, c'est un poème d'amour.
Oui. Mais est-ce que c'est de la poésie ?
Une nourriture. Une nourriture.
Prose. Ah,
si.
Oui, oui.
Voilà. Mais je crois que tu n'as pas grande sympathie politique pour André Gide. Non, ça veut tout dire.
J'ai lu quelques livres de lui, ça m'a pas.
Corridon est un texte.
Oui, c'est un livre important.
Un livre important.
Mais Gide a fait des choses importantes, d'accord. Mais il n'est pas vraiment dans mon univers littéraire.
Ni politique. Je vais te dire pourquoi. Parce que là c'est la seule mémoire que j'ai par rapport à toi. Alors, lorsqu'on s'est vu, je ne sais plus quand, on a échangé quelques propos dans le couloir, et tu m'as dit une phrase, je ne l'ai pas en tête, hein, pas très sympathique sur Gide.
Oh, je m'en souviens.
En me montrant, en me disant que c'était pas un ardent, c'était quand même quelqu'un de très mou, etc. Mm. Voilà, c'est pour ça. Et j'ai cherché Gide, et oui, moi je pense que oui, la nourriture c'est bien hein, quand même. Hein.
Bon, on fera une réédition.
On va faire une réédition. Donc, on passe par les plus grandes. On va passer par un, là. C'est Guillaume Apollinaire.
Oui.
Le nombre de gens que je connais qui se sont jamais aperçus, qui n'ont jamais voulu s'apercevoir, je ne sais pas, que le Mal-aimé était un texte homosexuel.
Clairement. Enfin, je veux dire, c'est on ne peut plus clair.
Un soir de demi-brume à Londres, un voyou qui ressemblait à mon amour vint à ma rencontre.
Oui.
Je suis vu ce mauvais garçon qui sifflotait main dans les poches. On ne peut pas être plus clair.
Oui, c'est limpide.
Ouais.
Alors, Marie Laurencin raconte qu'Apollinaire aurait eu des relations avec des hommes. Et dans son roman Les 11 000 verges, il y a deux scènes clairement entre hommes, de sexe entre hommes.
Tu n'as jamais remarqué que des gens n'ont pas voulu le dire ou pas voulu s'en apercevoir de ça ?
Oui. Il y a une cécité qui n'est peut-être pas forcément mal intentionnée, mais un refus de voir.
Est-ce que tu conseilles... On passe par les deux... écoute-moi bien, par les deux PD de Chuck. C'est Verlaine.
Oui.
Alors lui, il y va. Et Arthur Rimbaud.
Bien sûr.
Il y en a un qui va exceller dans le mystère, dans la littérature sur le sujet. Ça va être Rimbaud, c'est la Vierge folle.
Mm-hmm.
Et l'autre qui va la grosse machine. Hein.
Ah oui, les poèmes érotiques de Verlaine sont très très crus. Hein.
Ton cul à cheval sur mes cuisses les pénètre de son doux poids pendant que s'ébat mon lourd doigt. Au fin que tu te réjouisses. Il y va vraiment, j'ai envie de dire, au décapsuleur. Voilà.
Oui, mais c'est dans le recueil Ombresse qui est fait pendant avec le recueil Femme, où les poèmes sont très crus, très très crus. même un peu trash parfois pour certains. Hein, oui, oui. Mais ce sont des poèmes magnifiques, hein, magnifiques.
Mais quelle histoire entre les deux.
Oui. Oui,
déjà, entre ce sale gosse Rimbaud, sale gosse absolu, et ce dépravé, hein, il est marié, il a un gosse, il passe sa femme, il picole comme un trou, il n'a pas que Rimbaud, il a les Tinois, il a tout ça, il a toute une vie homosexuelle derrière, hein.
Voilà. Oui, c'est. Mais littérairement, j'aime les deux tout autant.
Je suppose que tu fréquentes la place du colonel Fabien.
Oui.
Je sais, je m'en doutais, je sais pas pourquoi, je m'en doutais. Et tu sais que c'est la place combat, il y avait des combats de chiens.
Ah non.
Et notre Verlaine venait voir les combats de chiens avec son giton, son minet de l'époque, le jeune Létinois.
Ah oui.
Ouais, c'était là-bas.
Ah tiens.
Voilà. Alors, avant que. Je vais quand même. Il y a une chose, il y en a une. Là, je vais me faire plaisir si jamais je le retrouve, parce que. Ouais, je l'ai. C'est bon. Là, je me fais énormément plaisir. Et puis après, on va parler de. On va remonter un peu dans le temps, on va voir comment tu as travaillé, etc. Hein? Et tu diras, tiens. Sonnet masculin. Les rideaux, tout souillés, des morves d'un branlé, enveloppaient le lit. Un bidet rempli d'eau attendait. Le vieillard rentra, mit son cadeau, 5 francs, dans une coupe de zinc, et l'enculé, tournant le dos, porta à ses jumelles rondeurs. Dame Jeanne, d'amour, au boucher du Michet, à grand l'aide de Suif, il fut vite fiché dans cette cave en chair où fument les odeurs. De salpêtre et de bran, ce dard sautillait, et perdu dans ses doigts. Après un long effort, il entra jusqu'au ventre, en ce trou qui bâillait, et dans l'anus embroché, sonna son doux flic-flac. « C'est bon !» dit petit homme. « Ah oui, va plus fort, ah, reste assez, laisse, ouf !» Et l'entendit « clac !» Tu vois ce que c'est ?
Eh oui, c'est de Huysmans, qu'on n'attendait pas forcément plus dans cette anthologie.
Il faut dire à peu près qui Huysmans, c'est...
Huysmans, c'est l'auteur réaliste, naturaliste,
d'À rebours,
et l'histoire d'un dandy qui se retire du monde.
Il y a toujours un sens religieux chez...
Oui.
On n'est pas dans la matière, on est dans une espèce d'occulte spirituel chez Huysmans.
Oui, comme dans... Ouais. Le livre sur l'occultisme là-bas.
Là-bas, bien sûr.
Voilà.
Ouais. Comment tu as procédé pour faire cette anthologie de...
Alors, bon, il y a...
Qu'est-ce qui t'a pris, surtout ? Quelle mouche t'a pris de faire ça ?
J'aime la poésie, non, j'aime les hommes. D'accord. Donc, associer les deux...
Ça n'avait jamais été fait ?
Non. Jamais. Il y a juste une anthologie de La Rivière, mais c'est du monde entier, poèmes et prose. Mais ce livre-là, non, ça n'a jamais été fait.
Alors comment tu as procédé ? Parce que je suppose, moi j'ai des noms, j'ai noté des noms, il y a des gens que j'avais jamais entendu parler, dont j'avais jamais entendu parler. Hein, le dénommé Chausson, tu connaissais le dénommé Chausson ?
Non.
Oui.
Si, parce qu'il y a un livre qui m'a été très précieux, une anthologie de poèmes érotiques libertins du XVIIe siècle. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec ça. Il y avait des noms évidents qui s'imposaient. Genet, Cocteau. Alors, sur Cocteau, je suis un peu triste parce que les héritiers ont refusé que je publie des poèmes érotiques. Alors qu'ils sont très 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 diffusés, enfin ils sont pas pas cachés, et je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu.
Tu vois qui est Clovis Trouille ?
Oui.
Peintre.
Oui.
À l'époque, les héritiers ne voulaient pas qu'on reproduise les tableaux de Clovis Trouille. Alors ils sont quasiment tous dans le même sens. Il faut se méfier des héritiers, quoi. C'est terrifiant. Quel droit ils ont. Donc, j'ai nommé Chausson. Je ne sais pas si tu te souviens de ce que tu as écrit.
Alors, pas dans le détail, mais tu vas me rafraîchir la mémoire.
Le 16 août 1661, Jacques Chausson et Jacques Polmy sont arrêtés pour tentative de viol sur le jeune noble Octave de Vallon, âgé de 17 ans. On note cependant, écrit Maurice Levert dans Le Bûcher de Sodome, que la sodomie ne constitue pas un chef d'accusation suffisant pour justifier le bûcher. Il faut des circonstances aggravantes, en l'occurrence des marques d'irreligion. Voilà. L'acte d'accusation déclare en effet Chausson et Paulmier bien et dûment convaincus d'avoir dit et proféré des blasphèmes et impiétés mentionnées au procès, et en outre d'avoir commis et fait commettre le crime de sodomie et péché contre nature. Maurice Levert écrit encore le 25 novembre 61, Chausson et Paulmier, dit Fabry, étaient condamnés à avoir la langue coupée et leur corps brûlé vif. La sentence fut confirmée par le Parlement le 29 décembre et l'arrêt exécuté le jour même sans rétendum, c'est-à-dire sans étranglement préalable au poteau.
C'est horrible. C'est horrible.
Voilà. Non, je ne connaissais pas du tout, mais voilà, c'est-à-dire qu'ils risquaient leur vie, quoi.
Oui.
C'est pour venir à Zemmour. À Zemmour, c'est exactement la même chose.
Oui.
Voilà.
Oui, mais quand il y a eu le vote du Pax, il y avait des manifestations homophobes avec des slogans comme les homosexuels au bûcher.
Bien sûr.
Oui.
Le retour du. Je suis tombé dans le RER le jour où il y avait le mariage pour tous, c'est-à-dire toute la réaction qui est le drapeau blanc. C'était très inquiétant. C'était très inquiétant. Il y a 10 ans de ça, à peu près, ou 10 ans de ça,
oui.
On sentait que ça montait, cette morale montait. Quoi.
Et ils sont au gouvernement maintenant,
oui, ils sont au gouvernement.
Retailleau, qui est un sinistre individu, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui avait même. Il y a quand même en France, des députés qui ont voté contre l'interdiction des thérapies de conversion. Mmh. On en est encore là. Alors que c'est une chose d'une barbarie inouïe.
Donc comment tu as procédé pour...
Il y a les noms évidents.
Tu connaissais les contemporains, voilà, d'accord.
Théophile de Viau, c'était évident. Voilà. Et puis, donc, il y a cette anthologie. Il y a deux sites qui sont assez bien faits, qui m'ont permis de découvrir des choses. Et puis après, j'ai été aidé par mon ami René Tsekati, qui m'a conseillé quelques auteurs que je ne connaissais pas. Et alors, il y a des maisons d'édition où j'ai trouvé beaucoup de choses, comme les Kayage Kitsch Camp, qui sont une très belle maison d'édition. Et puis après, c'est comme un jeu de pistes, c'est-à-dire que on tombe sur un et puis ça renvoie à un autre. Je me suis amusé aussi à le faire. Oui, comme j'aime beaucoup la devise des humanistes de la Renaissance, sérieux ludere, jouer sérieusement.
Oh, vous avez lu Roger Vaillant, monsieur Glorieux, donc c'est à peu près Vaillant, ça. C'est drôle de jeu. Hein. C'est drôle de jeu. Donc, vous lisez ça, vous découvrez. Alors, est-ce que lorsque quelqu'un est extrêmement sympathique, ou qu'il a mis sa vie en péril, il a été courageux, mais son texte est mauvais ou médiocre, est-ce que vous le publiez ou pas? Est-ce que tu le publies ou pas?
Oui, bien sûr. Oui, pour des raisons historiques. C'est le cas d'Aiswald Fersen, qui n'est pas un bon poète, mais qui a son importance dans l'histoire. C'est pour ça que j'ai casé aussi un écrivain que je trouve très mauvais, c'est Roger Perfit, un homme détestable.
Ne retournez pas le couteau dans la peau, dans la plaie, parce que j'ai remarqué qu'il y avait Perfit, oui.
Oui, mais il a compté, il a été un des créateurs d'Arcadie, donc il a compté dans l'histoire de l'homosexualité. Après, c'est pas pour... De toute façon, j'ai publié de lui qu'une traduction de Straton de Sardes, donc voilà.
Tu es arrivé à me dire ce que tu en penses de ce personnage-là et à percer un peu le mystère ou le secret Mac Jacob.
Alors Mac Jacob,
on peut dire à peu près, il est juif au départ.
Oui.
Juif.
Il se convertit au christianisme. Il part vivre à Saint-Benoît-sur-Loire, près de l'abbaye.
Très longtemps, d'ailleurs.
Oui, jusqu'à ce qu'il soit arrêté par la Gestapo. Et il est mort à Drancy. Et il a vécu l'homosexualité comme un péché.
Oui.
Il y a quelques poèmes qui sont assez clairs, mais peu. Donc j'ai repris dans l'anthologie. C'est un poète qui a été proche des cubistes, proche de Picasso.
Picasso qui s'est mal comporté à son égard, d'ailleurs.
Oui, quand il y a eu une pétition pour demander que Mac Jacob sorte du camp de Drancy, Picasso a répondu, Mac c'est un ange, il s'envolera tout seul. Et il ne s'est pas mouillé. Contrairement à quelqu'un comme Sacha Guitry, qu'on n'attendait pas là, ou Cocteau, qui a beaucoup œuvré.
Le rapport homosexualité-religion, catholicisme, il y a une contradiction évidente.
Oui.
Alors, comment ça se passe? Parce que c'est Marc Jacob n'est pas le premier, hein?
Non.
C'est pas le premier. Comment ça se passe, ce cas de conscience? Est-ce que c'est un péché, ou alors il considère ça comme quelque chose qui est plus fort qu'eux? Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose comme...
J'ai un peu de mal à me mettre dans la tête d'un croyant, ne l'étant
pas.
C'est
très dur à comprendre, oui.
Mais... Bon, il y a un poète qui manque, que j'ai découvert après, Conrad Détrez.
Je connaissais, oui.
Voilà, qui... lui-même est croyant, catholique, et qui a écrit des poèmes sur l'homosexualité comme étant le péché, ça lui coupe ses chances de salut.
Tu as découvert je crois qu'il y en a dedans, hein, des textes ouvertement homophobes.
Oui, le premier, Eustache Deschamps, contre les efféminés. Il y a des poèmes attribués à Ronsard.
À Ronsard aussi,
donc
oui.
On ne sait pas s'ils sont de Ronsard, mais je les ai mis aussi pour une raison historique importante.
Et des poèmes bi. Enfin, écoute bien, combien ce que je veux dire, des poèmes bi, c'est-à-dire que tu le lis, ça peut être aussi bien écrit pour un homme que pour une femme. Même s'il y a l'usage du cul, c'est pareil. Oui.
Je n'en ai pas vu ouvertement bi.
D'accord.
Sinon, je les aurais pris.
D'accord.
Oui, oui.
Il y a un personnage... Alors, pareil, je ne le connaissais pas. Parce qu'il y a aussi... c'est très drôle. Il y a des choses qui sont très drôles.
Oui.
Laurent Taillade, c'est hilarant.
Oui, 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 oui. Hein?
Là, alors, vie privée et publique du sidérien Marquis de Villette. Est-ce que tu connaissais le Marquis de Villette?
J'avais le livre édité par les éditions Gekitschkamp sur la Révolution.
Alors, le marquis de Villette, 4 décembre 1736 et juillet 1793, fut un écrivain médiocre, voilà, on en a un, mais protégé de Voltaire, dont il fera entrer les cendres au Panthéon, et un député modéré de la Convention. Il fut surtout renommé pour ses frasques homosexuelles qui inspirèrent plusieurs pamphlets, dont Les Enfants de Sodome à l'Assemblée nationale et Vie privée et publique du ci-derrière marquis de Villette, tous deux réédités par les éditions Gekitsch. Hein, je vais le lire parce que ça vaut le coup.
Hein. Oui, oui, oui. Voilà.
C'est peut-être pas un chef-d'œuvre.
Non, non.
C'est loin d'être un chef-d'œuvre. Alors, sur l'air de « Je suis natif de Ferrare ». Je suis natif de Lutèce et grand amateur de la fesse. Pour le con, je n'ai point de jus. Je n'ai de vide que pour l'anus. Loin des putains, dans une allée étendue dessus la feuillée, tandis qu'ailleurs on fout en con, moi j'encule, mon beau mignon. Il s'est marqué bis, il faut dire deux fois. Sans crainte de la chaude pisse, des poulains et de la jaunisse, quand j'ai besoin de décharger, je me passe bien d'en conner bis. À l'extrémité de l'épine d'un beau garçon, je fous ma pine, et me grattant les deux couillons, mon foot sort à gros bouillot. Bis. Bougre en même temps et rivette, le ci-dessous marqué de Villette, pour les femmes et pour le con, sans la plus vive aversion bis. Sans être natif de Sodome, à la femme il préfère l'homme, quand il est jeune et neuf surtout, pourquoi pas. Mais chacun son goût. c'est pas du grand, c'est du verre de mirliton, quoi.
Oui, 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 mais c'est intéressant pour la dimension historique, voilà. Mais il n'y a pas de poème de Villette lui-même, homo, j'en ai pas trouvé.
Bon, Jean Genet, puis on va récapituler tout ça.
Très bien.
D'accord.
Rocher de granit noir sur le tapis de laine, une main sur sa hanche, écoute le marcher. Marche vers le soleil de son corps sans péché et t'allonge tranquille au bord de sa fontaine. Chaque fête du sang délègue un beau garçon pour soutenir l'enfant dans sa première épreuve. Apaise ta frayeur et ton angoisse neuve. Suce mon membre dur comme on suce un glaçon. Mordis tendrement le paf qui bat ta joue. Baise ma queue enflée. Enfonce dans ton cou le paquet de ma bite avalée d'un seul coup. Étrangle-toi d'amour, dégorge et fais ta moue. Adore à deux genoux comme un poteau sacré mon torse tatoué. Adore jusqu'aux larmes mon sexe qui se rompt, te frappe mieux qu'une arme. Adore mon bâton qui va te pénétrer. Il bondit sur tes yeux, il enfile ton âme. Penches un peu la tête et le vois se dresser. L'apercevant si noble et si propre au baiser, tu t'inclines très bas en lui disant « Madame ».
Madame, écoutez-moi, madame, on meurt ici. Le manoir est hanté, la prison vole et tremble. Au secours, nous bougeons, emportez-nous ensemble. Dans votre chambre au ciel, dame de la merci. Appelez le soleil qu'il vienne et me console. Étranglez tous ces coqs, endormez le bourreau. Le jour sourit mauvais derrière mon carreau.
La prison pour mourir est une fade école.
Bon ben, mais bien sûr que je sais que vous aimez Jean Genet, le condamné à mort, Monique. Oh là 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 là, quelle histoire. Oui, ben Jean Genet est parti. Tiens, on peut faire ça vite fait avant de se quitter.
Alors, Jean Genet a été un temps compagnon de route du Parti communiste, clairement. Il s'est même fait attaquer par... parce qu'il avait fait une déclaration en faveur de l'URSS, donc il s'est fait traiter de stalinien par quelqu'un que je ne nommerai pas, parce que c'est pas la peine de nommer ce genre de connard. Jeunesse stalinien, je crois
ça,
que...
Ça, c'est difficile.
Comme on dit en Italie, ça fait rire les chats.
Oui, ça c'est difficile, parce qu'il... Oui, oui. Ouais. Donc, on écoutait Genet tous les deux, là.
Oui.
On le connaît par cœur, on redécouvre et c'est magnifique, on s'en lasse pas. Hein. Et s'il y en a un qui va avec le mot, et c'est toujours nimbé d'une tendresse.
Oui, il y a quelque chose de, je dirais de pur.
De pur.
Voilà. Un désir clair, franc, assuré, assumé, pur, d'une beauté.
Et pourtant, il est dans le cru.
Oui.
Et c'est pourtant manger beau mousse d'aventure. On peut pas faire mieux au niveau du direct et du cru. Hein.
Non, mais voilà. Mais ça ne sonne pas. Ça sonne pas comme le poème de Taillade.
Et ça échappe entièrement au vulgaire.
Oui, c'est bien au-delà.
Donc republié chez Gallimard, Elio Gabal. On connaissait celui d'Artaud. Celui de Jonet, c'est quelque chose. Au niveau, oui, je sais même pas pourquoi ça n'a pas été découvert, relu avant, travaillé, mis en scène, j'en sais rien.
Oui.
Franck Delorieux, c'est Audition des temps des cerises, voilà.
Non, ça a été réédité par les éditions Manifeste.
Manifeste, d'accord. Avec la préface et tout, pareillement, l'illustre...
Non. Et en quatrième de couverture, il y a un extrait de l'article que René Tsekati avait écrit dans Le Monde à l'époque.
On m'a dit, parce que je suis informé, je suis très informé, qu'il y aurait peut-être une revue littéraire chez Manifeste qui va paraître.
Oui, je crée une revue littéraire qui va paraître en janvier. Nous aurons au sommaire un poète chinois du 11e, un texte de ce très grand écrivain qui est Éric Bullard. Des lettres inédites d'Aragon à Elsa Triolet, plus plein d'autres choses.
J'avais dit à l'époque au camarade Victor Blanc que c'était très intelligent ce titre de Manifeste.
Oui.
Parce qu'il est, c'est manifeste, moi je veux dire c'est matérialiste et athée, c'est manifeste, mais en même temps le manifeste, ça a une répercussion historique énorme.
Oui, mais c'est une maison d'édition engagée, où je dirige aussi la collection Lettres françaises, qui était autrefois au temps des cerises et qui est maintenant. Et je suis fier particulièrement d'un livre que nous avons édité, c'est la première traduction en vers et intégrale du pèlerinage de Childe Harold de Byron, qui est un poète très cher à mon cœur.
Malheureusement qu'il n'a jamais pu venir sur Radio Libertaire.
Et non.
Et voilà. Et donc, l'amour entre hommes dans la poésie française chez Segers, il faut le lire. Il faut le dire, il y a des choses qu'on connaît, qui sont évidentes, et l'autre beaucoup moins. Et puis, il y a des choses qui sont drôles, il faut le dire.
Oui.
Il faut le dire, vive, on va finir comme ça, vive Laurent Taillade.
Voilà, vive Laurent Taillade.
On dit merci Monique, c'était un plaisir. Voilà, il faut dire merci à Monique.
Merci Monique.
Voilà, c'est parfait.
Merci Jean.
À bientôt.
Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou. Que ma main plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh viens mon beau soleil, oh viens ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir, ni les fleurs soupirer et des prés l'herbe noire. Accueillir la rosée où le matin va boire. Le clocher peut sonner. Moi seul, je vais mourir. Oh, viens mon ciel de rose, oh ma corbeille blonde. Visite dans sa nuit ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tu escalades mort. Mais viens, pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Amour, viens sur ma bouche. Amour, ouvre tes portes. Traverse les couloirs, descends, marche léger. Vole dans l'escalier, plus souple qu'un berger. Plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. Oh, traverse les murs, s'il le faut, marche au bord des toits. Des océans, couvre-toi de lumière. Use de la menace, use de la prière. Mais viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort.
Si j'ai le choix, moi, je repeindrai le vent qui me dira si el tiempo aquel era mejor. Cómo pintar el viento de color.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Pas quand même, mais je veux quand même. Je sais pas ce qui lui passe par la tête, des fois c'est que des peignes. Tu crois que je les bloque? Ok. insomniaque à 100%, faut faire avec. Elle me donne des coups de coude, elle guitariste, faudrait y assurer. Elle veut refaire l'amour, mon cul. Des petites garçonnes de son âge. Comment la toucher quand elle me revient tout en âge? Qu'est-ce qu'elles ont de plus que moi? D'amour propre. À mes yeux, elle est nickel. À mes doigts, je peux pas dire. Peut-être que c'est juste un bout. Faut voir.
Et vous, maman Berthe, petit rêve parloir.
Dès que l'enfant paraît, je me casse. Je peux pas sentir les pulapis. Je leur mords les joues quand ils m'embrassent. Et quand ils pleurent, je leur pince les cuisses. C'est mon truc, c'est mon sacerdoce. Je hais les gosses. Fais dodo, petit con, si tu dors. Je t'achèterai un petit rat en peluche. Vivement cet hiver que tu couches dehors. Cet été tu coucheras dans la ruche avec le chat de la carabosse. Je hais les gosses. Je te chante des berceuses à tue-tête. T'as tes petits yeux bouffis de sommeil. Demain, je t'endors à la trompette. Et pour que ça te rentre mieux dans l'oreille, je te couperai les cheveux en brosse. Je hais les gosses. D'accord, tu veux un peu de pognon, normal. Mais on le joue au bras de fer. Si tu gagnes pour ta communion, j'achèterai une Winchester avec mon prénom sur la crosse. Je hais les gosses. On ira voir la tour Eiffel. Je nourrai tes deux grolles ensemble. On descendra par les poutrelles. Ma parole, on dirait que tu trembles. Si tu tombes, ça me fera des bosses. Je hais les gosses. J'ai beau être dur, je suis pas chien. Quand on les a, on les nourrit. Mon maigrelet, je vois bien que t'as faim. Fini la gamelle de Kiki. Il reste un peu de viande sur son os. Je hais les gosses. Dès que l'enfant paraît, je me casse. Je peux pas sentir les pulapis. Je leur mords les joues quand ils m'embrassent. Et quand ils pleurent, je leur pince les cuisses. C'est mon truc, c'est mon sacerdoce. Je hais les gosses.
T'en souviens-tu, Jamel, quand tu as débarqué? Les cousins t'avaient dit que c'était la terre promise. On t'a pris tes papiers, on t'a déshabillé. Tu as attendu des heures sans même une chemise. Te souviens-tu, Jamel, des regards de mépris des autres voyageurs quand tu as pris le train? Toi, tu voulais sourire et tu n'as pas compris. C'était le commencement d'un nouveau quotidien. Te souviens-tu, Jamel, du patron de bistrot qui t'a refusé une bière un jour rue des Abbesses? Comme tu ne te fâchais pas, tu demandais de l'eau, l'a fait sortir son chien de sous le tiroir caisse. Te souviens-tu, Jamel, du soir où tu t'es fait casser bêtement la gueule par une bande de tondus? Il y a les beaux quartiers qu'il vaut mieux éviter quand on n'est pas comme ceux qui possèdent les rues. statues de Jamel, des boulots, des débuts. Balayeurs, éboueurs, manœuvres sur les chantiers. Et la gamelle froide et la chambre exiguë. Te voilà installé, mais tout n'a pas changé. Maintenant, tu sais, Jamel, quand tu passes au péage d'une autoroute, que tu vas te faire arrêter. Les flics, c'est bien connu, respectent les usages. L'usage veut qu'on contrôle plutôt les gens bronzés. Et tu verrais, Jamel, si tu venais chez moi, le temps qu'il te faudrait pour passer la frontière. Avec tes cheveux longs, ton accent de là-bas, faut dire que tu n'as pas l'allure d'un homme d'affaires. On pourrait continuer, Jamel, t'en souviens-tu, les sarcasmes, les filles, la haine des parents. Ce que je voulais dire, c'est simplement salut à toi et à tous ceux que l'on dit différents. Ce que je voulais dire, c'est simplement salut à toi et à tous ceux que l'on dit différents.
Quand je prendrai l'enfant pour en faire un marin, son chant vous parviendra, même dans le lointain. Toi qu'on a fait rêver d'îles inabordées, regarde devant toi, la mer va se calmer. Tu nous as tant parlé de merveilleux pays, avec le vent du large, tu connaîtras leur vie. Et nous qui t'avions dit qu'il faudrait te guider là-bas vers l'horizon, au bout de l'océan, loin de notre maison. Mon enfant, reprenons chemin du hameau. Le port ne retient pas seulement les bateaux. On dirait que les hommes, au moment de partir, ont au pied leur maison comme une ancre au navire.
Tchekhov, Musset, Jésus-Christ, Dostoïevski. On ne peut rien comprendre en ce monde. Qu'est-ce que la vie, qu'est-ce qu'une carotte? Une carotte est une carotte, et on ne sait rien d'autre. Frappe ton cœur, c'est là qu'elle génie. Aime vraiment ton prochain comme toi-même. C'est une vérité qu'on nous a transmise, mais elle n'a pas pris. Tant d'enfants sont morts, tant d'hommes devenus fous. On ne peut être heureux que s'il est malheureux. Souffrant silence, frappe ton cœur, c'est laquelle génie. Aime vraiment ton prochain comme toi-même. C'est une vérité qu'on nous a transmise, mais elle n'a pas pris. Tu n'auras la joie, tu n'auras le bonheur, ni dans l'argent, ni dans l'amour, mais dans la vérité. Frappe ton cœur, c'est laquelle génie. Aime vraiment ton prochain comme toi-même. C'est une vérité qu'on nous a transmise, mais elle n'a pas pris. Frappe ton cœur, c'est laquelle génie.
Je reviens chanter doucement, sans bruit, sans applaudissement, dans ton oreille doucement, maman. Juste 10 mots, juste un moment, ma Mirabelle au bois dormant. Je sais que tu dors pas vraiment, maman. Là-bas au pays des sarments, on va toujours docilement de mariage en enterrement, maman. On mange toujours goulûment l'olive noire et le piment sur des tartines de froment, maman. Ici même le vent nous ment, c'est tout requin, tout caïman, c'est tout en toc, c'est tout ciment, maman. Je veux pas te faire du tourment, mais dis-moi pour qui ou comment on se fait un tel châtiment, maman. Reviens chanter doucement, sans bravo et sans boniment, dans ton oreille doucement, maman. Paisiblement, furtivement, ma mémoire comme un aimant remonte ta source en ramant, maman. Que la terre jalousement garde tes larmes et tes sermons, le nom de ton plus bel amant, maman. Sous tes yeux clos brûle un diamant, je suis sûr que le firmament t'a couché sur son testament, maman.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
T'es toute nue sous ton poule et à la rue, qu'est ma boule jolie môme. À ton cœur, à ton cou, et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur du printemps qui se fout de l'heure et du temps, t'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil quand le chagrin du réveil, t'es qu'une forme qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme.
baisers sont pointus comme un accent aigu, joli mot. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli mot. Ta barrière de foufou, faut se la faire, mais c'est doux, joli mot. Ta violette et le violon, qu'on violente, mais c'est bon, joli mot. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'heure et du temps, t'es qu'une étoile d'amour, prends en toi le beau jour, joli mot. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie, et qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme. T'as qu'une paire de mirettes, au poker des conquêtes, joli môme. T'as qu'une rime au bonheur, faut que ça rime, faut que ça pleure, joli môme. T'as qu'une source au milieu, qui éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on dit môme et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne qui s'effeuille monotone. T'es qu'une joie en aller, viens chez moi la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton poule et la rue. Et ma boule, joli mot.
Songez que maintenant la lune pâle est sur la ville. Songez que maintenant en cette nuit douce et tranquille, un homme ferme les yeux à jamais dans cette seconde, et dans un lit miséreux un rêveur est venu au monde. Songez-y, dans cette nuit, songez que vous avez du vin et du pain sur vos tables. Songez que vous avez à des richesses incroyables. Songez à ce qui la nuit voit la lumière à vos fenêtres, qui n'ont ni table ni lit. Songez que la misère est traître. Songez-y dans cette nuit. Songez à ceux qui rient pour cacher qu'ils n'ont plus de larmes, et songez à ceux qui crient la voix brisée dans le vacarme. Et songez à ceux qui noient leur désespoir et leur faillite. Et songez comme parfois un verdict se prononce vite. Songez-y dans cette nuit. Songez que quelque part dans cette nuit sombre et secrète, songez que quelque part on doit compter les baïonnettes. Songez que s'il n'en manquait rien qu'une seule à cette somme, cela pourrait épargner peut-être alors la vie d'un homme. Songez-y dans cette nuit. Je me demande parfois s'il faut quand même aimer ce monde. Il faut l'apprendre, je crois, à chaque instant, chaque seconde. Songez-y dans cette nuit.
Un petit programme là-dessus pour rien oublier, alors je... Non, okay. Non, parce que, en dehors du fait d'être myope, je manque de mémoire. Mais là, j'ai vu que maintenant...
Les petits plaisirs du jour, les plaisirs de la nuit, les croissants du matin, la première cigarette, une bouffée perdue d'accordéon musette, un verre de Beaujolais pour noyer ses ennuis, l'omelette aux champignons, le soir à la campagne, le feu dans la cheminée et l'odeur du calvar, ça vaut tous les châteaux qui s'écroulent en Espagne. Et quand tout va très mal, moi je vous dis, ça va. Le camembert du siècle et le verre de chirouble, la douzaine de belons échappés du panier, le sourire d'une fille qui sans raison me trouble, le coup du père François, le coup de l'étrier, les petits plaisirs de rien, c'est du bonheur quand même. J'en ai tout un folklore, et 24 heures par jour je promène ma vie par des chemins que j'aime. Je ne chante jamais la messe pour les sourds. Les petits plaisirs du jour, c'est toi quand tu t'éveilles, quand tu sors de ton rêve et que tes yeux ouverts conservent encore un peu d'incroyables merveilles. Paysage inconnu qu'on regarde à l'envers. Petit plaisir de rien, comme un refrain des rues qu'on attrape au hasard et qui vous fait 3 jours. Offrez-moi 10 fois rien, j'en aurai plein la vue. À chacun ses plaisirs, à chacun ses amours.
Il y a des bonnes dames paroissiennes qui prennent plaisir à accabler de pauvres péripatéticiennes entre deux grains de chapelet, à ces fanatiques de Jésus, à ces empêchés de l'étreinte, j'ainsi soit-il ma pogne au cul, et ce refrain de ma complainte. Et on est tous des putes, on est tous maqués, et si tu veux pas être pute, tu seras saqué. Le cœur chaud dans ses pantoufles, monsieur Dupont français moyen, devant sa télé rote et bouffe, dans sa deux chevaux refait Verdun. À ce minable, à ce convaincu, à ce partisan de la crainte, je revisionne ma botte au cul et ce refrain de ma complainte. Et on est tous des putes, on est tous maqués, et si tu veux pas être pute, tu seras saqué. Je ne savais pas pour faire mes chansons et les chanter tout simplement, fallait intéresser les patrons à l'entreprise amant. Cheval putain ou bien l'artiste, sous-éditeur ou sous Macron, faut galoper sur toutes les pistes pour le picotin des barbeaux. Car et on est tous des putes, on est tous maqués, et si tu veux pas être pute, tu seras saqué. Quand viendra l'heure de mon salut, si j'ai la trouille du labyrinthe, je ferai voir une dernière fois mon cul en chantant l'ultime complainte. Et on est tous des putes, on est tous maqués, et si tu veux pas être pute, tu seras saqué.
Un cri d'alarme, que font les écolos? Le pouvoir, les gendarmes, que fait Brigitte Bardot? une espèce de plus meurt là devant nous. Il y a de l'abus, le monde devient fou. Ce n'est pour une fois pas la faute aux chasseurs, pas la faute au climat, pas plus qu'aux pollueurs, non. Ce qui maintenant se produit sous nos yeux, c'est un étouffement hypocrite, insidieux. Faute de sang nouveau, toute race s'éteint. Dauphins, dinosaures ont le terrible destin. Sont-ils déjà trop rares, ceux dont je parle ici? Est-il déjà trop tard? Peut-être, car voici 40 ans, messieurs, dames, que l'Europe s'ennuie. Sans le plus petit drame, sans le moindre conflit, sans se donner la chance, et depuis tout ce temps, de saluer la naissance d'un ancien combattant. On ne sait plus faire la guerre, ça n'est pourtant pas con. Manque de militaires, de blindés, de canons. Que leur faut-il encore de plus à ces blancs becs, à ces états-majors qui gardent les pieds secs? Ils claquent mon pognon en manœuvre futile, en théorie bidon, en guéguerre inutile. Et pendant qu'ils s'amusent, coup de gueule, coup de bluff, l'ancien combattant s'use, on exige des neufs. Pardon, me direz-vous, on a pris des mesures pour tenter malgré tout de donner au futur des anciens combattants dignes de leur époque qui tout frais, tout fringant, rajeuniraient le stock. Laissez-moi rigoler sur vos tueries mesquines, vos massacres avortés au Tchad ou aux Malouines. Ça se passait loin d'ici, c'était pour des gamines, tout comme en Algérie, tout comme en Indochine. Le vétéran, le vrai, à médaille et moustache, celui qui avait le béret, celui qui avait du panache, avait derrière lui, monsieur, plusieurs millions de morts. Il revenait joyeux, il en voulait encore. On savait ce qu'était la haine et la revanche. Et quand on s'étripait, c'était à l'arme blanche. On était entre nous, je veux dire entre blancs. Maintenant, que voulez-vous, tout s'en va, tout fout le camp. On ne reverra plus, la nature est fragile. Toutes ces gueules tordues défilent dans nos villes. Oui, c'en est bien fini de ce glorieux passé. Et c'est la faute à qui? À vous qui vous taisez. Et ce n'est pas l'avenir, la prochaine hécatombe, qui peut me réjouir, puisqu'on dit que la bombe ne laissera ici-bas pas un être vivant, pas un seul, même pas un ancien combattant. Je lance un cri d'alarme, que font les écolos? Le pouvoir, les gendarmes, que fait Brigitte Bardot? Une espèce de plus meurt là devant nous. Il y a de l'abus, le monde devient fou.
Gasti Belzalom à la carabine chantait ainsi. Quelqu'un a-t-il connu Doña Sabine, quelqu'un d'ici? Chanter dans ces villageois la nuit gagne le Mont Falou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quelqu'un de vous a-t-il connu Sabine, ma señora? Sa mère était la vieille Mograbine d'Antecara, qui chaque nuit criait dans la tourmagne comme un hibou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Vraiment la reine eut près d'elle était laide quand vers le soir elle passait sur le pont de Tolède en corset noir. Un chapelet du temps de Charlemagne ornait son cou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Le roi disait en la voyant si belle à son neveu, pour un baiser, pour un sourire d'elle, pour un cheveu, un fendant rouille je donnerai l'Espagne et le Pérou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Je ne sais pas si j'aimais cette dame, mais je sais bien que pour avoir un regard de son âme, moi pauvre chien, j'aurais gaiement passé 10 ans au bagne sous les verrous. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quand je voyais cet enfant, moi le pâtre de ce canton, je croyais voir la belle Cléopâtre qui, nous dit-on, menait César empereur d'Allemagne par le Licou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Danser, chanter, villageois la nuit tombe, Sabine un jour a tout vendu, sa beauté de colombe, tout son amour pour l'anneau d'or du comte de Saldagne, pour un bijou. Le vent qui vient à travers la montagne m'a rendu fou.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Eh bien, il est 16h, oui, on est sur Radio Libertaire, ça va bientôt être l'heure de Trou Noir. Ah bah oui, c'est un petit peu dans le désordre aujourd'hui parce que nous revenons tout juste des Reclusiennes, raison pour laquelle nous étions absents la semaine dernière. Et nous vous rapportons un certain nombre d'enregistrements, à commencer par celui que nous allons écouter aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Ah, j'ai l'impression que j'ai un petit souci technique. Ah non, voilà. Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Je commence par vous remercier d'être là pour ouvrir les Reclusiennes 2026. Merci à Radio Libertaire et à Monique en particulier, qui est toujours aux manettes. À temps plein, plus que plein. Donc Radio Libertaire fait la sonorisation, l'enregistrement et assure tout au long de l'année une présence discrète dans l'organisation avec de bons conseils et un carnet d'adresses bien fourni. Voilà, donc merci à Radio Libertaire. Je vais vous lire un petit texte de présentation des Reclusiennes qui est un espèce de collage de textes et d'élaborations qu'on a eu en préparant le festival tout au long de l'année. Les Reclusiennes 2026 s'inscrivent dans la longue histoire des luttes humaines où se battre n'a jamais cessé d'être une nécessité face à l'injustice. Des révoltes paysannes aux mobilisations contemporaines, une même exigence traverse les siècles. Refuser la résignation, reprendre prise sur nos vies. Mais ici, se battre ne signifie pas détruire ou soumettre, ni glorifier la guerre. Il s'agit de lutter autrement, affronter sans renoncer au débat, résister sans abandonner la pensée. Cette exigence trouve une source vivante à Sainte-Foy-la-Grande, ville de naissance au XIXe siècle d'Élisée Reclus, géographe, penseur libertaire, infatigable observateur des sociétés humaines. Reclus n'a cessé de lier savoir et engagement, connaissance du monde et transformation sociale. Son héritage irrigue les Reclusiennes. Comprendre pour agir, débattre pour se libérer, imaginer pour se transformer. Un engagement qui se prolonge et s'illustre alors que nous fêtons les 90 ans du début de la Révolution espagnole, nous l'avons surtout fêté hier, et les 50 ans de la recréation de la CNT, qui en fut un des acteurs majeurs. Si nous tournons vers le passé, c'est pour mieux regarder et agir au présent. Ce matin, éducation, cet après-midi, féminisme, hier après-midi, aménagement des villes, demain, ou plutôt vendredi, projet techno-solutionniste, samedi, pardon, projet technosolutionniste, Marée brune demain, donc lutte contre le fascisme. Les sujets ne manquent pas qui nous invitent à débattre pour mieux se battre. Donc ce matin, nous allons parler éducation et nous allons en parler sans IA, sans PowerPoint, sans diaporama, presque sans ordinateur. Alors j'avais préparé un petit texte sur l'éducation, puis il était tellement mauvais, j'ai renoncé. Donc je suis comme vous, je vois le programme, apprendre à débattre, éduquer autrement. C'est difficile de ne pas se perdre, de ne pas s'éparpiller.